Bella figlia dell'amore, schiavo son te vezzi tuoi.
Mystique d'Occident, une émission présentée par Hélène.
Nous découvrons ensemble depuis quelques jours comment ce magnifique poème du Cantique des Cantiques, le poème plus sacré de la Bible, a été source d'un grand nombre d'inspirations chez nos pères de l'Église et certains de nos mystiques. Nous nous sommes penchés sur ce poème pour nous permettre de passer des homélies des pères du désert, de l'Orient, au texte magnifique également de nos mystiques d'Occident. Nous avons donc commencé avec Grégoire de Nice, avec Origène. Nous poursuivrons ensuite avec Saint Bernard et Thérèse d'Avila. Et aujourd'hui, nous allons terminer les homélies de Grégoire de Nice. L'ouvrage dont nous parlons est édité aux éditions Migne, Les Pères dans la foi, et il s'intitule Grégoire de Nice, le Cantique des Cantiques. Voici le quatrième poème, le chant de la nuit du Cantique des Cantiques. Je dors, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon aimée, ma colombe, ma toute belle. Car ma tête est pleine de rosée et mes boucles des gouttes de la nuit. Je dors, mais mon cœur veille. Quelle interprétation faut-il donner à ces mots? Le sommeil, c'est l'image de la mort. En lui s'abolit toute activité sensorielle du corps. Il n'y a plus, au moment du sommeil, d'activité spécifique de la vue, ni de l'ouïe, ni de l'odorat, du goût, ni du toucher. Le sommeil détend l'énergie du corps. Il provoque aussi l'oubli des soucis qui sont en l'homme. Il endort la peur. Il apaise la colère. Il relâche peu à peu la tension des amertumes et provoque l'insensibilité à tous les maux, aussi longtemps qu'ils dominent le corps. Ces spectacles terrestres et matériels comme l'or et l'argent, ou les pierres dont la couleur fait briller les yeux de la convoitise, ces phénomènes extraordinaires du ciel, l'éclat des astres, le disque du soleil, les différentes phases de la lune, et tout ce qui séduit les yeux, rien de tout cela ne reste immobile, mais se trouve emporté, selon le cours du temps, dans un mouvement universel. Si on passe au-dessus de tout cela pour contempler les vrais biens, l'œil du corps n'a plus de force, tandis que l'âme, devenant plus parfaite, ne se laisse entraîner vers aucun des spectacles qu'il lui offre et regarde seulement par son esprit ce qui est au-dessus du monde visible. De la même façon, l'ouïe devient pratiquement morte et n'a plus d'activité quand l'âme est occupée vers ce qui dépasse la parole. Quant aux autres sens plus proches de l'animal, il est inutile de préciser qu'ils sont rejetés bien loin de l'âme comme un mauvais relent de mort. C'est l'odorat qui flaire et suit les senteurs. C'est le goût qui est asservi au ventre. C'est aussi le toucher, ce sens servile et aveugle, que la nature n'a peut-être créé que pour les aveugles. Quand tous ces sens, vaincus par l'inactivité, se trouvent comme en état de sommeil, l'action du cœur devient pure et la réflexion se tourne vers les hauteurs en demeurant à l'abri du bruit et du trouble de l'agitation sensible. Il existe dans la nature humaine deux sortes de plaisirs. L'un est provoqué dans l'âme par l'impassibilité et l'autre dans le corps par la passion. Celui que choisit la volonté l'emporte sur l'autre. Ainsi, l'homme, qui se laissant entraîner par les sens, ne regarde que le plaisir qu'il procure au corps, passera sa vie sans goûter la joie divine, parce que le meilleur se trouve comme occulté par le moins bon. Mais pour ceux dont le désir tend vers le divin, le bien ne peut être occulté et tout ce qui ensorcelle les sens est considéré comme à fuir. C'est pourquoi l'âme, qui trouve sa joie dans la seule contemplation de l'être, ne s'éveille à aucune des séductions des sens. Au contraire, elle endort toute activité corporelle. Et dans la nudité et la pureté de son esprit, elle accueille, dans son réveil divin, la manifestation de Dieu. Puissions-nous nous aussi être dignes de cette manifestation ? En passant par le même sommeil et en éveillant notre âme dans le Christ Jésus notre Seigneur, à lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Toutes les choses du monde physique, du monde manifesté, suivent le cours de la nature transitoire du temps. Ils n'existent que dans le paraître, sans être ce qu'on croit, et n'ont même pas de permanence dans cette apparence. Au moment même où elles paraissent exister, elles disparaissent, à la manière des vagues que l'on voit à la crête des flots, qui, sous l'effet des vents, se gonflent un moment, mais ne peuvent garder en permanence cette enflure. En un instant, elles se soulèvent sous la force du vent, puis, retombées en même temps que lui, laissent apparaître à nouveau, toute plate, la surface de la mer. Voulant donc que notre esprit reste à l'écart de telles illusions, il ordonne de secouer des yeux de l'âme ce sommeil profond pour que nous ne glissions pas loin des réalités véritables qui nous sont proposées en recherchant ce qui n'a pas d'existence réelle. C'est pourquoi le Christ dans Saint-Luc nous propose l'image de la veille en disant « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées ». Car la lumière, en brillant devant les yeux, en chasse le sommeil, et les reins serrés par la ceinture empêchent le corps d'y céder, car la sensation de gêne ne permet pas la détente que procure le sommeil. Le sens de ces images est tout à fait clair. L'homme, saint par la tempérance, vit dans la lumière, car sa conscience pure illumine sa vie par cette lampe qu'est la confiance. La vérité apparaît alors et l'âme ne connaît ni le sommeil, ni le leurre, ni l'aveuglement d'aucun de ses vains songes. Je dors, mais mon cœur veille. La voici maintenant, elle se prépare à accueillir pour la première fois la visite de Dieu. Et comme elle n'a pas encore reçu et introduit chez elle le Verbe, qui se tient maintenant à la porte, elle s'émerveille en entendant la puissance de sa voix. C'est pourquoi elle ne dit pas encore que la voix du fiancé l'atteint, mais la voix du fiancé atteint seulement la porte. La voix de mon bien-aimé frappe à la porte. Pour Grégoire de Nice, le sentiment de présence exprime l'expérience mystique de celui qui dépasse le sensible. Je dors, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon aimée, ma colombe, ma toute belle, car ma tête est pleine de rosée et mes boucles des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fente de la porte et mes entrailles ont frémi. Ma tête est couverte de rosée et mes boucles des gouttes de la nuit, lui dit l'époux. La rosée apporte la guérison, nous savons bien, grâce au prophète qui dit « La rosée qui vient de toi est un remède pour eux. » Et les gouttes de la nuit prolongent l'idée de notre précédente méditation. Il n'est pas possible, en effet, à qui pénètre dans le sanctuaire des réalités invisibles et incompréhensibles, de connaître une pluie ou un torrent de la connaissance. Il doit se contenter de ce que la vérité se révèle goutte à goutte, avec des idées encore faibles et obscures. Ce sont les gouttes du Verbe qui tombent une à une par l'intermédiaire des saints et des hommes inspirés. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Elle a bien écouté celui qui lui a dit de se faire sa sœur, son amie, sa colombe, sa parfaite, pour permettre ainsi à la vérité d'habiter en son âme. Oui, elle a fait ce qu'elle avait entendu, en dépouillant cette tunique de peau qu'elle avait jetée sur elle après la faute, et en lavant ses pieds de la terre dont il s'était recouvert quand elle avait quitté le séjour du paradis pour aller sur la terre. Après avoir entendu ces mots, tu es terre et tu retourneras à la terre. Elle a ouvert au Verbe l'accès à son âme, en écartant le voile de son cœur, c'est-à-dire la chair. Quand je dis « chair », je veux dire le vieil homme que l'apôtre Paul ordonne de dépouiller et de déposer, si l'on veut laver dans le bain du Verbe, la boue des pieds et de son âme. Ainsi, celui qui a dépouillé le vieil homme et qui a écarté le voile de son cœur a ouvert l'accès au Verbe, dont l'âme se fait un vêtement quand il est entré en elle. L'apôtre Paul nous invite à dépouiller les haillons du vieil homme, à revêtir la tunique neuve créée selon Dieu dans la piété et la justice. Mon bien-aimé, dit-elle, a passé la main par la fente de la porte et pour lui mes entrailles ont frémi. Ce n'est plus la voix qui frappe à la porte de son cœur, mais la main divine elle-même qui s'introduit à l'intérieur par la fente de la porte. L'auditeur intelligent voit immédiatement combien ces mots dépassent encore en grandeur ce qui les précédait. « Ouvre !» dit le Verbe à la fiancée. Et il l'appelle de nom divin qui lui donne la faculté d'ouvrir. La fiancée obéit au Verbe. En se faisant comme elle l'a entendu, sa sœur, son amie, sa colombe, sa parfaite. Elle dépouille l'ancienne tunique de peau, elle lave la souillure de ses pieds et elle ne remet pas ce manteau déchiré à l'aspect hideux, pas plus qu'elle n'appuie désormais son pas sur le sol. C'est donc qu'elle a entendu sa voix et qu'elle obéit à son ordre. Elle ouvre la porte en écartant le voile de son cœur. Elle a écarté de la porte le rideau de la chair. Toute grande s'est ouverte la porte de l'âme pour qu'entre le roi de gloire. Mais ce large passage s'est révélé n'être qu'une petite ouverture étroite et courte par laquelle n'est pas passé le fiancé, mais seulement sa main, à grand-peine, pour pénétrer à l'intérieur et toucher celle qui désire le voir, en lui donnant comme seule satisfaction de reconnaître que c'est la main de l'être désiré. L'âme humaine est une frontière entre deux natures. L'une est de nature incorporelle, intelligible et sans mélange, et l'autre est corporelle, matérielle et privée de raison. Dès qu'elle se purifie du contact avec les lourdeurs de la vie terrestre et lève le regard, grâce à la vertu, vers le divin qui lui est parent, elle ne cesse d'enquêter et de rechercher l'origine des êtres, quelle est la source de leur beauté, d'où vient le flot de leur puissance, qu'est-ce qui donne naissance à la sagesse que l'on voit en eux. Mon bien-aimé a passé la main par la fente de la porte et mes entrailles ont frémi. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé. De mes mains coulait la myrrhe et de mes doigts la myrrhe exquise sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais il était parti, il avait disparu. Je l'ai cherché sans le trouver, je l'ai appelé, pas de réponse. La grandeur de la nature divine ne se connaît pas dans la compréhension, mais dans le renoncement à toute faculté de comprendre et d'imaginer. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin. Cela nous enseigne le mystère évangélique, car chacun de ces termes nous fait découvrir le Verbe révélé. Le Dieu qui a été manifesté dans la chair, en sortant de Judas et en apportant la lumière aux nations plongées dans les ténèbres, et dans l'ombre de la mort, mérite de recevoir le nom de bien-aimé, qui convient bien à sa nature, nom que lui donne celle qui a été choisie pour être son épouse dans une union éternelle et qui est la sœur du peuple issu de Judas. L'expression « il est descendu » renvoie à l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands. Elle montre que le Verbe lui aussi accompagne la descente de celui qui a rencontré les ennemis et révèle ainsi comment la grandeur indicible est descendue et s'est abaissée jusqu'à notre nature. L'énigme de son jardin nous apprend que le vrai jardinier nous transplante, nous les hommes, dans son champ. Car nous sommes son champ selon la parole de Paul. C'est lui le Verbe qui, au commencement dans le paradis, a été le jardinier de la plantation humaine qu'avait planté le Père Céleste. Et donc, il est descendu quand l'esprit solitaire et malfaisant s'est emparé de nous, le jardin, et a saccagé le champ de Dieu pour transformer à nouveau le désert en jardin et l'embellir en y plantant les vertus. Pour le soin de ses plantes, il a fait venir par sa parole la source pure et divine de l'enseignement. Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique pour sa mère, elle est la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles qui la voient la félicitent, reines et concubines la célèbrent. Quelle est celle-ci qui monte comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil et redoutable comme des bataillons. Unique est ma colombe. Reste le cas où l'amour bannit complètement la crainte et où la crainte se transforme en amour. Alors l'être sauvé apparaît comme un être unique dans son union intime avec le bien unique. Tous les éléments se retrouvent rassemblés dans l'unité par la perfection qui est celle de la colombe. Ne plus connaître de division par quelques divergences de leur volonté dans le jugement sur le bien. Devenir au contraire tous un par leur union au seul et unique bien, nous dit saint Jean. Le Christ nous dit « La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils réalisent parfaitement l'unité. » Et donc, celui qui, de petit enfant, s'est élevé et a grandi jusqu'à devenir un homme parfait et a atteint la dimension de l'âge spirituel, celui qui est passé de la condition d'esclave et de concubine à la dignité royale, celui qui par son impassibilité et sa pureté est devenu capable de recevoir la gloire de l'Esprit Saint, celui-là est la colombe parfaite, à qui le fiancé dit en la voyant « Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est unique pour sa mère, c'est un être d'élection pour celle qui l'a mise au monde. » Nous n'ignorons certes pas qui est la mère de la colombe si nous reconnaissons l'arbre à son fruit. En regardant un homme, nous ne doutons pas qu'il soit né d'un homme. De même, en recherchant la mère de la colombe d'élection, nous n'en concevrons pas d'autre qu'une colombe. Car dans l'enfant se voit toujours la nature des parents. Donc puisque l'enfant né de l'esprit est esprit, et que cet enfant est une colombe, la mère de l'enfant est assurément une colombe, celle qui descendit des cieux sur le Jourdain, selon le témoignage de Jean. C'est elle que les jeunes filles proclament bienheureuses, c'est elle que louent concubines et reines, car les âmes de tout rang se retrouvent dans la même course vers une telle béatitude. Les jeunes filles l'ont vue et la proclameront bienheureuse, reines et concubines la célébreront. Il est dans la nature de tous d'être tendus par le désir vers la béatitude et vers ce dont on fait l'éloge. Si donc les jeunes filles proclament bienheureuse la colombe, elles désirent assurément devenir colombes elles aussi. Et cet éloge de la colombe par les concubines et les reines prouve qu'elles sont, elles aussi, tendues vers ce qu'elles louent, jusqu'à ce que tous ceux qui regardent vers le même objet de leur désir deviennent un, qu'il ne subsiste plus aucun mal en personne, que Dieu soit tout en tous, comme nous dit saint Paul, en tous ceux qui se trouvent fondus les uns aux autres par l'unité dans leur communion au bien, en Jésus-Christ notre Seigneur, à qui soit la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. C'est avec Saint Bernard que nous poursuivrons la prochaine fois nos émissions sur le Cantique des Cantiques.
C'était les Mystiques d'Occident, une émission présentée par Hélène.